EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Dans les violences conjugales, de nature, en fait, la relation, elle est faite pour être inégalitaire. C'est une stratégie, en fait, qui est travaillée pour toujours ne pas permettre le vis-à-vis, mais toujours, en fait, travailler l'inégalité. Et toujours faire en sorte que le conjoint victime reste en position de domination, en fait, d'être dominé. Et dans la violence conjugale, en fait, on va se rendre compte que les disputes, elles vont être utilisées, elles vont être instrumentalisées pour toujours maintenir ce rapport d'inégalité, en fait.
Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. On commence une nouvelle semaine dans À table avec Annabelle et nous allons parler aujourd'hui de violences conjugales, ces violences qui sont faites majoritairement aux femmes. Alors c'est un sujet délicat et on a voulu avoir la participation aujourd'hui d'une femme qui était avocate et qui aujourd'hui thérapeute conjugale et familiale spécialisée dans les violences faites aux femmes. C'était important pour nous d'avoir une parole d'experte dans le domaine afin de pouvoir nous expliquer à quoi ça ressemble réellement les violences conjugales, de quoi parle-t-on, et puis aussi dans le cadre des églises, des milieux chrétiens, parce que oui, malheureusement, ça existe aussi. Pourquoi est-ce que ça existe et comment on fait aussi pour s'en sortir? Comment c'est possible? Et c'est possible, oui, de se sortir de toutes ces violences et de ce cycle. Et puis, je vous le dis déjà en avant-première, mercredi, nous aurons le témoignage d'une femme qui est à elle aussi vécu des violences conjugales, qui a vécu différentes choses avec les hommes, et cette femme a été entièrement restaurée. Alors oui, c'est possible, Dieu peut le faire. Et je suis aujourd'hui avec Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour,
et avec Laure.
Bonjour Laure.
Vous allez bien?
Oui,
ouais.
Ça va très bien.
Et puis on va accueillir Johanna. Donc Johanna, dont je vous parlais à l'instant. Bienvenue Johanna avec nous dans À table avec Annabelle. On est très heureuse de pouvoir t'accueillir et te recevoir aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous, même si c'est pour un sujet assez lourd, mais en tout cas, ravie de pouvoir l'aborder ensemble.
Ben merci beaucoup. Donc, comme je disais, tu as tout un parcours déjà à ton actif. Tu as été avocate, mais aujourd'hui, tu es thérapeute conjugale et familiale et spécialisée dans la violence faite aux femmes. Alors, c'est ça. Je disais, c'est important pour nous d'avoir d'avoir ta voix aujourd'hui, d'avoir aussi ton expertise, mais aussi tes conseils, parce que c'est un sujet qui est quand même très délicat.
Oui, effectivement, et c'est vrai que mon parcours, moi, d'abord d'avocate, m'a amené finalement aux limites de ma compréhension, qui était que, avec le seul point de vue juridique, j'avais l'impression que ça pouvait suffire, jusqu'à ce que je me heurte au fameux psychotraumatisme, on va en parler un petit peu plus tard tout à l'heure, et jusqu'à ce qu'il faille, en fait, reprendre un parcours d'études pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, ces violences-là, et quels sont les impacts. Et c'est ce qu'on va essayer aussi d'aborder tout ensemble.
Et pour commencer, Johanna, moi, je voulais te demander, par rapport aux violences conjugales aujourd'hui, est-ce que tu aurais des chiffres qui nous montrent combien c'est répandu aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Alors, quand on prend les chiffres, il y a différents chiffres, des indicateurs, en fait, qui nous permettent d'essayer de se représenter ce que ça peut représenter dans le réel. Un chiffre qu'on peut avoir, c'est le nombre de plaintes, le nombre de plaintes enregistrées par les services de police ou de gendarmerie. Par exemple, à titre d'illustration, en 2022 en France, on a eu 244 000 victimes de violences conjugales enregistrées par les forces de sécurité au global, donc police et gendarmerie. 244 000 plaintes, ça veut dire en fait des faits, des victimes qui ont été jusqu'à porter plainte. Donc c'est nécessairement en deçà de ce que sont véritablement les violences conjugales, parce que nombre de victimes ne vont pas jusqu'à la plainte. En raison du phénomène d'emprise. Et parmi ces 244 victimes, on avait 86% de femmes. Donc une violence qui touche en particulier les femmes. Et parfois, c'est une violence qui va jusqu'à occasionner la mort, puisque sur cette même année 2022, on a eu 145 morts violentes, et là encore avec une surreprésentation des femmes, 118 femmes pour 27 hommes. Donc une violence grave hein, qui peut aller jusqu'à la mort.
Ok. Et donc on voit que ce sont quand même des chiffres qui ne sont pas anodins. On n'est pas en train de parler de cas finalement rarissimes. Et comme tu le disais, c'est qu'en plus ce sont bah, les chiffres qui nous remontent à cause de fins malheureuses, mais aussi de plaintes. Donc ça veut dire qu'il y a toute une, un nombre de victimes silencieuses qui n'a jamais porté plainte et qui n'a jamais fait appel à l'aide d'un tiers.
Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on pourrait dire que ces chiffres, ils nous paraissent déjà effrayants en soi, mais en fait, c'est que le sommet de l'iceberg. Et là, je cite les chiffres pour la France, mais c'est très similaire pour ce qui est du Canada, de la Belgique, de la Suisse ou pour le continent africain. Hein. C'est un problème de société, que ce soit en France, dans la francophonie ou au niveau mondial.
Mmh. Et du coup, quand on parle de violence conjugale, on parle de quoi au juste ? Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ça peut ressembler ?
Effectivement, alors déjà, c'est important de qualifier les choses et déjà de dire de quoi on parle d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, les violences conjugales, ce sont des infractions pénales. Ça veut dire que ce sont des actes qui sont sanctionnés par le droit, qui peuvent entraîner des condamnations, des peines d'amende, voire d'emprisonnement, en fait, selon la gravité des actes. Par ailleurs, c'est aussi des actes qui sont appréhendés par le droit français et par beaucoup d'autres droits comme une circonstance aggravante. Circonstance aggravante, ça veut dire que le même acte de violence, quand il est commis dans le cadre conjugal, il va être appréhendé par le juge comme étant plus grave encore. Et parfois, dans l'inconscient collectif, on peut avoir cette idée que, bon, quand c'est dans le cadre du mariage, c'est un peu une circonstance atténuante, après tout c'est sa femme, bon, quand même. En fait, non, le droit le considère comme plus grave encore. Et va appliquer une circonstance aggravante. Et quand on parle aussi d'infraction pénale, bah, ce qu'on dit aussi au travers de ça, cette qualification, c'est que ça relève du juge pénal. Dit autrement, on n'est pas face à un conflit d'ordre privé, en fait, qui concerne juste monsieur et madame. Que ce soit madame qui fasse le repassage et monsieur qui fasse la vaisselle, ça concerne le couple. Que même monsieur et madame se disputent pour le prochain lieu de vacances et ne soient pas d'accord et que chacun s'exprime et chacun a un avis divergent, ça relève du couple, c'est un conflit conjugal. Mais en fait, du moment où il y a une relation d'inégalité, une relation de contrôle, une relation où il n'y en a qu'un seul qui peut s'exprimer et l'autre doit toujours systématiquement se taire, et une relation où il y a des actes de violence, et on va voir tout à l'heure quelle forme ça peut prendre, ben là, en fait, ça sort de la sphère familiale puis ça relève du juge pénal. Et ça peut aussi nous aider des fois en tant que proche, potentiellement aidant, parce que des fois on est un peu gêné à se dire mais est-ce que je suis vraiment légitime à intervenir, après tout c'est leurs affaires de couple, etc. Mais du moment qu'on parle de violence, en fait, ça ne concerne plus que le couple, ça relève du juge pénal.
Et pour en revenir à la question d'Aurélie, c'est ça, qu'est-ce que, même d'un point de vue pénal, qu'est-ce qui va être qualifié comme violence conjugale ? Parce qu'on peut avoir, je pense que dans la compréhension de chacun, bah, il y a peut-être des niveaux ou des limites qui sont complètement différentes. Et du coup, qu'est-ce qui est considéré comme violence conjugale ?
Alors, peut-être déjà sur la notion du conjugal, qu'est-ce qui est le lien de conjugalité ? Bah, le droit a une vision assez large de ce, même très large de ce lien-là, en fait. Par conjugal, on entend toute relation de couple, que le couple soit marié, fiancé, en concubinage, pacsé, que ce soit un jeune couple adolescent, des jeunes de 12-13 ans, et malheureusement, on voit de plus en plus de violences conjugales dans les tout premiers couples, et même que le couple ne soit plus un couple, c'est-à-dire que ce soit des ex-conjoints, ex-concubins, ex-petits-copains. En fait, le droit va estimer qu'on est dans une situation de violence conjugale simplement par le fait qu'on était dans une relation de couple actuelle ou passée. D'accord. Donc ça, c'est pour le lien de conjugalité. Maintenant, pour ce qui est des formes de la violence, qu'est-ce qu'on appelle violence ? En fait, la violence, elle peut prendre beaucoup de formes différentes. Quand on pense violence conjugale, on pense tout de suite à la violence physique. Donc, par exemple, pour illustrer, donner des coups, donner des gifles, serrer les poignets pour contraindre, pousser, mordre, gifler. Voilà, des violences d'ordre physique. Mais ce ne sont pas les seules violences. Ça paraît le plus évident, mais en fait, ça va bien au-delà. Les violences conjugales, c'est aussi des violences qui parfois ne se voient pas, parfois ne laissent pas de traces et souvent sont beaucoup plus insidieuses. Il y a notamment les violences sexuelles. Les violences sexuelles, par exemple, c'est forcer son épouse à avoir des rapports sexuels. Monsieur veut, madame ne veut pas, et ben monsieur oblige madame. Ou ça peut être monsieur veut certaines pratiques, madame ne veut pas ces pratiques-là et monsieur force cette pratique-là en particulier. Ça peut paraître choquant aussi, mais ça, je parle pour l'avoir entendu dans mes accompagnements, madame dort et monsieur va disposer de son corps pendant qu'elle dort. Tout ça, on parle de viol conjugal. Et on pourra peut-être détailler un petit peu plus une autre fois en parlant des violences sexuelles, mais donc elles peuvent être sexuelles. Les violences, elles peuvent aussi être verbales. Donc ça veut dire des violences comme des insultes, du dénigrement ou le fait de rabaisser l'autre par les propos en fait. Et puis les violences, elles peuvent aussi être psychologiques. Par exemple, du chantage émotionnel. Si tu ne fais pas ça, alors je vais me suicider. Ou alors une stratégie pour isoler la victime, pour que petit à petit la victime elle soit coupée de son cercle familial, son cercle amical, et qu'au final elle n'ait plus de relais de relais d'aide en fait, quand à un moment donné il faut faire appel à de l'aide. Et puis les violences psychologiques, ça peut être par des actions, et puis ça peut être par l'inaction aussi. Ça peut être de l'indifférence, de la négligence. Ça peut être faire la tête à l'autre pendant des jours et des jours, et on lui oppose un silence qui est lourd, qui est hostile. Et finalement, les violences psychologiques, ce qu'elles permettent de mettre en lumière, c'est qu'il peut y avoir des situations où il n'y a jamais eu aucun coup physique qui n'a été porté. Et pourtant, on est dans une situation de violence conjugale parce qu'il y a une relation d'emprise, une relation de domination, de contrôle de la personne de l'autre, de la personne du conjoint.
Ok. Ça doit être dur à...
Oui.
Ah, excuse-moi, vas-y.
Oui.
Non, il y a aussi...
Non.
Vas-y.
on a aussi des violences qui sont d'ordre économique. Les violences économiques, c'est par exemple contrôler dans le menu détail toutes les dépenses de la conjointe. Ou alors, on lui interdit tout moyen de paiement. On va refuser qu'elle exerce un emploi. Donc, elle ne peut pas exercer d'emploi, elle n'a pas de salaire, et puis elle a aucun moyen de subsistance, en fait. Ou alors, elle peut travailler, mais le conjoint s'accapare son salaire, puis c'est lui seul qui gère et il en fait ce qu'il en veut. Ou alors, ça aussi, j'ai souvent vu, c'est des conjoints qui vont contracter tout un tas de dettes, et comme le couple est solidaire devant les dettes, eh bien, madame, des fois, elle doit enchaîner les boulots, elle doit prendre 2-3 travails pour pouvoir rembourser en fait la dette du foyer. Donc des violences économiques.
C'est bon que tu apportes tous ces éléments, parce que c'est vrai que c'est des choses des fois super dures à discerner. On vit notre vie puis on se rend pas compte que finalement il peut vraiment avoir un impact néfaste dans le couple, dans la famille, le foyer. Et moi, ma question, bon, peut-être que ça va être différent en fonction de tout ce que tu viens de dire, mais à quel moment on parle? Parce que c'est vrai que des fois dans les couples, il peut se passer quelque chose, une violence, puis après, t'as on va dire le mari qui va dire oh, « je m'excuse, je suis désolée ». Et on est dans cette notion de pardon, dans cette notion où on va croire qu'il ne recommencera plus. Donc à quel moment est-ce qu'on peut parler, il faut parler?
Moi, je dirais, si on perçoit déjà que ce n'est pas normal, il faut parler dès les débuts. Parce qu'il ne faut pas laisser ces actes perdurer dans le couple. Et ils sont anormaux dès le début, en fait. Donc, au plus tôt, il faut dire au conjoint que non, on n'accepte pas ça. Si en tout cas, on le perçoit, hein, ce n'est pas une manière de condamner certaines victimes qui n'ont pas perçu dans les débuts que ce n'était pas normal. Et puis, pas hésiter à demander de l'aide le plus tôt possible, en fait, pour éviter que le mécanisme de l'emprise se referme sur le conjoint victime, en fait. Parce que l'emprise, c'est une prison qui se referme petit à petit.
Et dans quel état, en fait, les femmes arrivent vers toi, par exemple? Je pose la question parce que, comme Laure disait, il y a plusieurs formes de violence, comme on a vu. Et parfois, de prime abord, on ne va pas se dire « Ah, mais tiens, ça, c'est une violence conjugale. Oh, cette personne a boudé. » Donc, du coup, on est dans la violence conjugale. Donc, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit les gens arrivent vers toi pourquoi pour essayer d'identifier, comme tu dis, à quel moment on va voir quelqu'un et même qui on va voir à ce niveau-là, parce qu'il y a trop de gens qui subissent des violences, mais je ne vais pas aller voir la police de prime abord pour dire que « Ah, mais tiens, j'ai subi une violence ». Il y a tellement de répercussions internes que ça peut créer tant de questionnements aussi qui peuvent arriver par rapport à ça. Donc, à quel moment, quel est l'état? Est-ce que tu peux décrire l'état peut-être des gens qui viennent généralement chez toi? Et pour vraiment savoir, comme Laura dit, c'est à quel moment qu'on peut vraiment discerner, là, on a passé un cap.
En fait, je dirais que le cap, il se situe dans la différence entre le conflit conjugal et la violence conjugale. Et la grande différence entre les deux, c'est la notion d'égalité entre les deux conjoints. Dans le conflit conjugal, on est en vis-à-vis, on est à égalité. En fait, c'est pas parce qu'on va être d'accord sur tout, hein, c'est pas une relation fusionnelle où on a toujours le même avis. Au contraire, dans le conflit conjugal, on se rend compte qu'on est égaux parce qu'en fait, tu dis A, je dis B, mais en fait, on a chacun la liberté de dire quelque chose de divergent. Mmh. Et en fait, on a une liberté d'expression, l'intégrité de chacun est respectée, et il y a pas de paroles qui sont rabaissantes, et l'un qui prend toujours le contrôle, toujours l'ascendant sur l'autre. Dans les violences conjugales, de nature, en fait, la relation, elle est faite pour être inégalitaire. C'est une stratégie, en fait, qui est travaillée pour toujours ne pas permettre le vis-à-vis, mais toujours, en fait, travailler l'inégalité et toujours faire en sorte que le conjoint victime reste en position de domination, en fait, d'être dominé. Et dans la violence conjugale, en fait, on va se rendre compte que les disputes, elles vont être utilisées, elles vont être instrumentalisées pour toujours maintenir ce rapport d'inégalité, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important, dès qu'on perçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, que cette inégalité, elle est marquée, elle est présente, de réagir et d'oser en parler autour de soi, auprès d'un professionnel, auprès d'un ami bienveillant, auprès de frères, de sœurs, de pasteurs, pour pouvoir, en fait, de suite, ne pas laisser, en fait, ce cercle se mettre en place. Maintenant, je dis ça, mais la réalité, c'est que c'est tellement insidieux que très souvent, on laisse passer, on laisse s'installer parce qu'on ne perçoit pas tout de suite la normalité. Par ailleurs, très souvent, en fait, on a une vision qui est floutée parce que souvent, les victimes de violences conjugales ont un vécu de violence par le passé. Ce qui fait que leur seuil de tolérance de la violence, il va être particulièrement bas parce que elles, potentiellement, beaucoup se sont construites avec déjà un passif de victimes de violence. Et donc, elles ne perçoivent pas tout de suite ces signaux-là. C'est pour ça que c'est beaucoup, en fait, finalement, aux proches d'avoir, la tête vraiment bien au clair et d'être vraiment intransigeant avec, non, ça, c'est de la violence, pour être ces relais d'appui, en fait, pour les victimes.
Et ça, c'est vrai qu'on le voit souvent. Il y a des personnes qui peuvent venir et qui vont raconter leur histoire et banaliser en fait des actes de violence, toutes sortes de violences, parce que c'est quelquefois moins grave que ce qu'elles ont déjà vécu dans le passé avec un parent ou avec un ex-conjoint. Et du coup, tout ce qui est moins grave est comme acceptable. C'est déjà mieux que dans le passé, mais ça fait que quand même la personne se retrouve encore dans un cycle de violence qui est peut-être moindre, mais qui n'en reste pas moins de la violence. Et Johanna, je veux juste revenir sur les formes de violence, parce que tu en as cité plusieurs, les violences physiques, sexuelles, verbales, psychologiques, économiques, il y avait d'autres violences que tu nous avais partagées aussi, et juste pour qu'on puisse clore à ce point-là, il y avait les violences administratives.
Oui, tout à fait. Les violences administratives, par exemple, ça va être monsieur confisque les papiers d'identité de madame, par exemple sa carte d'identité, son passeport, peut-être son titre de séjour. Comme ça, elle est bloquée, en fait, elle peut pas faire grand-chose sans lui. Ou alors, c'est un contrôle de la vie administrative du conjoint, où elle a aucun droit de regard, c'est lui qui gère tout. Finalement, en fait, ça va être... c'est pas des faits qui... Il y a une intentionnalité derrière. Et l'intentionnalité, c'est en fait empêcher toute autonomie, alors soit économique, quand les violences sont économiques, soit administratives, pour créer une relation de dépendance à l'autre. C'est que madame ne pourra plus rien faire sans passer par monsieur, en fait, plutôt qu'une relation d'interdépendance. Il y a aussi les violences gynécologiques. Les violences gynécologiques, ça peut être, par exemple, contraindre l'épouse à un type de contraception. C'est-à-dire que monsieur va décider de quel type de contraception elle doit prendre. Ou à l'inverse, non, elle n'a pas le droit de prendre de contraceptif. C'est lui qui décide et il décide que non. Ou alors, lors d'une grossesse, monsieur va obliger la conjointe à faire pratiquer un avortement. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut voir. Mm-hmm. Donc, des violences gynécologiques. En fait, ce qu'on voit au travers de ça, c'est que la violence, elle attaque tous les domaines de vie, finalement. Et donc, on peut aussi parler de violence spirituelle. Ça peut être, par exemple, dénigrer l'autre dans sa manière de vivre sa foi. Ou alors, dès qu'elle a un avis autre, dire, en fait, t'es une mauvaise chrétienne, t'as rien compris, t'es une Jézabel, etc., etc. Et donc, les violences spirituelles, c'est à la fois un type de violence, mais en fait, plus généralement, ça va souvent faire office de justification qui va être utilisée par le conjoint violent pour asseoir les violences. Mmh. C'est-à-dire que parfois, les conjoints violents, ils vont se servir de la foi, de la Bible. Ouais. Plus précisément, en fait, ils vont aller tordre les textes pour faire croire que leurs actes de violence sont fondés, que c'est normal. En fait.
Ça, c'est pas quelque chose. Ça nous amène au point de la violence conjugale aussi dans l'Église et notamment pour les femmes chrétiennes parce que on a malheureusement entendu trop de témoignages femmes soyez soumises à vos maris et que sous couvert de ce verset la violence conjugale était permise était acceptée même encouragée j'imagine que toi tu as dû faire face aussi à ce genre de situation avec les personnes que tu as pu suivre.
Oui, tout à fait, en fait on voit les arguments qui ressortent en fait les arguments les plus classiques. Et je dirais en tout cas pour nuancer que c'est pas quelque chose qui est propre au milieu chrétien. En fait, dans chaque milieu où règnent les violences, l'agresseur, il va aller utiliser des éléments de son contexte, de sa culture, de son milieu, peut-être de sa coutume, pour légitimer ses actes. C'est-à-dire que les agresseurs agissent comme ça. C'est leur manière de poser leur stratégie d'emprise, en fait. Donc on peut le voir dans d'autres milieux. Par exemple, sur les violences sexuelles, on a pu voir. Par exemple, dans le milieu de la gymnastique ou le milieu du patinage artistique, où en fait, l'entraîneur allait utiliser des éléments du contexte pour pouvoir asseoir le système de violence. Et donc, dans les milieux chrétiens, ce que l'agresseur va aller utiliser en termes d'arguments bibliques, c'est effectivement une idée d'un amour conjugal qui doit être un amour sacrificiel, dans le sens d'un amour martyr. Se sacrifier au point de devenir martyr. Et donc, comme si dans le couple, parce qu'on est chrétien, il faudrait tout accepter, tout cautionner, tout endurer, et que la soumission voulait dire de se soumettre aux violences. Mmh. Et je pense qu'il faut pas qu'on s'y trompe, en fait. Dieu n'appelle pas le bien mal et le mal bien. Et il faut qu'on ose dénoncer ces fausses interprétations. Parce qu'elle crée des blessures, en fait. Elles permettent à certaines situations de perdurer.
Et par où commencer, du coup, une femme aujourd'hui qui se dit « Ah, mais tiens, j'ai l'impression que dans mon foyer, il y a plus de violence que ce que je pensais. » Par où commencer et comment elle s'exprime à ce niveau-là?
Comment commencer? Je dirais, c'est faire appel à de l'aide. Faire appel à de l'aide à n'importe quelle main tendue qu'on peut trouver parmi les proches, parmi les professionnels. Puisque la violence, en fait, elle peut impacter tous les domaines de vie, ça va prendre aussi plusieurs types de professionnels pour accompagner la sortie. Il va y avoir besoin de professionnels de santé, d'accompagnement psychologique. Il va y avoir besoin de professionnels du domaine de la justice, du social, pour accompagner au mieux la victime à sortir en fait de cette situation de violence. Et puis aussi, toute la valeur d'avoir aussi des proches bienveillants qui aussi comprennent la gravité de la violence, qui vont pas être dans la minimisation, qui vont pas avoir notamment ces interprétations bibliques erronées. Je pense notamment des fois dans les idées qui peuvent être assez présentes, il y a cette idée que on aurait une interdiction absolue au divorce dans les milieux chrétiens, comme si en fait avec ce fameux verset que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et donc derrière, on en tire l'interprétation que l'épouse victime de violence conjugale, elle est coupable si elle décide de fuir la violence en quittant le foyer. Et là aussi, je pense que c'est important de dire que c'est pas le départ de la victime du foyer violent qui désunit, c'est la violence qui sévit et qui perdure qui désunit. Pour replacer chacun face à ses responsabilités, en fait. Et je pense que si on veut...
Vas-y, continue.
Je dirais que je pense que si on veut vraiment promouvoir le mariage tel que prévu par Dieu, il faut combattre la violence conjugale. Être intransigeant avec la violence conjugale, et c'est la meilleure manière de promouvoir le mariage.
Et c'est important que tu puisses le dire, parce que la violence n'a pas de place dans un mariage, et quelquefois on va essayer de trouver tout un tas d'échappatoires ou d'excuses pour justifier cette violence et puis condamner finalement des solutions qui quelquefois, c'est vrai, sont pas forcément les bonnes, mais comme tu dis Johanna, c'est pas le départ, c'est pas la décision qui s'ensuit, les conséquences qui provoquent qui sont à l'origine de tout ça, c'est la violence elle-même qui provoque la désunion, qui provoque la division, qui provoque tout un tas de choses. On pourra d'ailleurs parler tout à l'heure des traumatismes et des conséquences que ça peut occasionner, que peuvent occasionner les violences. Mais par rapport à ce que disait Aurélie, comment commencer ? Donc tu disais aller chercher de l'aide, et je voulais aussi qu'on parle de ce fait de pouvoir porter plainte, parce que porter plainte, ça peut faire peur, en fait. Et au début d'émission, tu nous as dit c'est un problème pénal. Donc maintenant, d'aller raconter ça à mon ami, ça va pas, d'un point de vue juridique, je veux dire, ça va pas faire changer les choses. Ceci dit, aller porter plainte, t'as toujours peur des conséquences. Donc est-ce que toi t'encourages à aller porter plainte ? Et puis si oui, comment on fait pour porter plainte ? Et après, c'est quoi les conséquences, en fait, d'une plainte aussi ?
Tout à fait. Moi, j'encourage à porter plainte parce qu'on parle d'une infraction pénale, donc ça relève du juge pénal, donc plainte pénale. Je n'encourage pas à porter plainte dans le sens comme si c'était une baguette magique et ça allait tout solutionner en un coup de baguette. Bien sûr que non. Mais porter plainte, ça permet en fait de déjà marquer de manière très très tangible que on ne cautionne plus, on ne veut plus, on dit stop. C'est souvent la première étape. Et préalablement à cette étape-là, en fait, il faut là aussi travailler sur la représentation de la plainte. Avec des fois aussi ce passage biblique qu'on trouve à plusieurs endroits des évangiles sur si tu es en procès avec quelqu'un, hâte-toi de t'accorder avant d'arriver devant le juge. Des fois, ce passage, il est interprété et souvent il est même utilisé, instrumentalisé par le conjoint agresseur, pour vouloir dire que en tant que chrétien, on n'a pas accès à la justice, que on n'a pas le droit de porter plainte en quelque sorte. Quand on prend ce passage en entier, on se rend compte en fait que on est là face à une procédure de surendettement. Et dit autrement, en droit français, le surendettement, c'est une action civile entre deux particuliers, un créancier, un débiteur. Or, les violences conjugales, on l'a dit tout à l'heure, ça relève du droit pénal. Donc ça a juste rien à voir. Et en fait, ce passage, il est hors sujet, quoi. j'encourage à faire cette démarche en préparant aussi la victime sur le fait que, effectivement, ça ne solutionne pas tout d'un coup. C'est un processus qui est en train de s'enclencher, et en l'accompagnant aussi en lui disant qu'elle a le droit d'être accompagnée pour aller porter plainte. Elle peut s'entourer d'un proche bienveillant. Elle peut s'entourer de professionnels. Ça peut être peut-être son avocat. Ça peut être travailleur social, ça peut être peut-être quelqu'un qui a suivi son dossier au niveau d'une association spécialisée. Bref, elle peut ne pas être seule dans cette démarche-là.
J'aime beaucoup ce qui est dit parce que... Pardon. Donc là, on parle des cas dans des contextes comme en France, etc. Et j'aimerais faire un parallèle quand même, parce que je sais qu'il y a des endroits où on va dire que ben, ça ne vaut pas la peine d'aller porter plainte, ça ne vaut pas la peine d'aller à la police. La police même ne considère pas ça forcément comme quelque chose de tellement important au point où, en fonction des contextes dans lesquels on se trouve. Et par rapport à ça, pour faire un parallèle, c'est important dans ces cas-là. S'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et vous dites « mais la police ne m'entendra pas dans les pays où il n'y a peut-être pas cette grande ouverture », mais c'est de se dire « en fait, je dois quand même marquer mon désaccord quelque part ». Parce que c'est ça que tu disais, c'est que la plainte ne vient pas comme solutionner en elle-même le problème, mais la plainte montre que ben, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, avec ce que je vis. Donc, c'est peut-être important pour ces personnes-là de se dire, en fait, il faut que je manifeste mon désaccord d'une manière qui est quand même conséquente, pas juste avec mes simples mots, que ça ne va pas payer, mais d'une manière conséquente et de trouver dans le contexte dans lequel on est la façon qui sera la plus appropriée pour manifester ce désaccord-là. Donc, je pense que c'est important de prendre ça en compte avec tous les éléments que tu as apportés au niveau de l'accompagnement.
Oui, tout à fait. Et la plainte, effectivement, elle permet en fait de marquer que si la violence conjugale, elle place en situation d'inégalité, bah, la plainte, elle montre qu'on se replace en vis-à-vis. Et parfois, en fait, ça peut être aussi efficace de s'entourer d'anciens, de personnes plus âgées dans la famille, qui vont pouvoir soutenir et qui vont pouvoir représenter une forme d'autorité, en fait. Mm-hmm. Qui dit, ben, en fait, non, on n'accepte pas, on ne cautionne pas, on n'est pas d'accord.
Mm-hmm. C'est dans ce sens-là aussi que je parlais pour certains contextes.
Moi, je voulais savoir, dans des contextes comme ça, est-ce que des fois, mine de rien, du côté de l'agresseur, qui est des fois aussi victime parce qu'il vit, comme on l'a dit, des fois par répercussion de ce qu'il a vécu, est-ce qu'on trouve quelquefois aussi une collaboration de sa part lorsque justement la femme ou la personne victime ose parler, finalement l'agresseur réalise, mais c'est vrai, ce que je faisais, c'était pas correct, mais je m'en rendais même pas compte parce que j'étais dans un processus que j'ai grandi comme ça. Donc est-ce que, parce que ça peut aussi donner espoir des fois de se dire, c'est vrai que j'ose, c'est un courage aussi des fois d'aller ouvrir sa bouche, mais que des fois de l'autre côté, on vient aussi aider peut-être quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, détruisait, faisait le mal juste par répercussion.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs profils de conjoints violents, et donc en fonction de chaque profil, ce serait difficile de faire des généralités, mais je dirais qu'il y a des profils qui ont cette capacité de remise en question. Il y a des profils aussi qui ont... En fait, très souvent, les violents conjugaux ont subi des violences par le passé, souvent dans l'enfance, en fait. Et pour certains conjoints qui ont eux-mêmes eu leur vision du couple qui ont été biaisés, qui ont été tronqués dès le départ, eh bien ils auront cette volonté de faire un travail sur eux. Il faut quand même rester prudent dans le sens où pour certains il n'y a pas de capacité de remise en question, il n'y a pas de capacité d'empathie, c'est-à-dire de percevoir la souffrance de l'autre. Et parfois, il y a même une volonté destructrice de jouissance au travers de la souffrance de l'autre. Mmh. Et dans ces cas-là, le changement ne peut pas se faire parce que la base du changement, c'est la remise en question. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent, en fait, dans la manière d'accompagner les femmes victimes, parce que très souvent, elles vont vouloir intervenir en sauveur de leur conjoint. La seule manière, comme tu le dis, Laure, qu'elles peuvent avoir un impact positif, c'est elles en refusant catégoriquement la relation de violence. Mmh. Et, mais Johanna, ce n'est pas en... Oui.
Peut-être pour terminer sur une note d'espoir aussi, à travers toutes les femmes, parmi toutes les femmes que tu as pu accompagner, que tu as pu aider dans ces périodes douloureuses, est-ce qu'il y en a qui s'en sont sorties? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à sortir la tête de l'eau puis à être entièrement restaurées?
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a de l'espoir dans tout ça. Et c'est vrai que quand on dresse le tableau, il peut paraître assez sombre. Et je pense que c'est important qu'on ne minimise pas. Et en même temps, qu'on montre qu'il y a des horizons qui peuvent être heureux après tout ça. Mm-hmm. Je dirais que quand la personne elle est bien accompagnée, et quand la violence elle cesse totalement, hein, qu'il y a aucune racine de violence qui perdure, donc soit au travers du couple préexistant, soit ben, parce qu'en fait il a fallu partir et puis il n'y a pas eu de remise en question de la part du conjoint violent, ben, en fait là il y a un processus de reconstruction qui peut s'enclencher. Et cette reconstruction, bah, puisque la violence, elle attaque tous les domaines de vie, bah, elle va être c'est une reconstruction sur beaucoup de domaines en fait qui ont été abîmés. Mais oui, on peut totalement derrière avoir une vie heureuse, reconstruire des fondements, peut-être de nouveau être heureux en couple, être heureux dans sa vie de famille. Et pour un petit peu illustrer ça, j'aime bien parler d'un phénomène, d'un mécanisme en fait neurobiologique très très vraiment c'est beau en fait. C'est ce que moi j'aime bien appeler le miracle de la neurogénèse. Les violences en fait elles entraînent des atteintes neurologiques, psychiques et neurologiques. Ça veut dire que on passerait un IRM, on pourrait voir qu'il y a eu un traumatisme. Et en fait depuis quelques années maintenant, on a découvert que le cerveau avait cette capacité de neuroplasticité. Dit autrement, on peut produire des neurones, non pas que pendant l'enfance, mais encore à l'âge adulte. Et c'est ce qu'on appelle la neurogénèse, en fait. Et quand on fait ce travail d'accompagnement, en fait, avec ces femmes qui ont vécu ça, quand on les aide pour qu'elles réapprennent à s'aimer, quand on les aide pour retrouver goût à la vie, pour reconstruire un système de limites, ça c'est normal, ça c'est anormal, ça c'est légal, ça c'est illégal, quand on les aide aussi à faire la paix avec ce corps qui a été vraiment abîmé, quand elles ont tous les soins nécessaires, eh bien, ça enclenche ce processus de neurogénèse, en fait. Et il y a des nouvelles terminaisons nerveuses qui vont être recréées. Et je trouve que, ne serait-ce que le mécanisme, montre, en fait, à quel point il y a de l'espoir, puis à quel point Dieu a bien fait ce corps, et à quel point, en fait, il y a des capacités, même dans le corps qui a été abîmé, pour se rétablir. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai pu constater, moi, avec de nombreuses femmes que j'ai accompagnées. Et je préfère les citer directement, elles, parce qu'elles sont plus légitimes à parler. Mais il y en a une en particulier, son témoignage m'a beaucoup marqué. Enfin, on va dire qu'elle s'appelle Marie, c'est un pseudonyme, hein, je ne cite pas son prénom. Mais elle a vécu plus de 20 ans de violence conjugale. Et quand on a terminé le parcours d'accompagnement ensemble, elle m'a partagé ce témoignage. Et si vous voulez bien, je vais vous le lire. Oui. Elle dit « Aucune vie n'est trop abîmée pour pouvoir avancer et guérir. L'espoir renaît. C'est un beau voyage vers le début d'une nouvelle liberté. » Un bel outil de compréhension par-dessus tout, de réaliser qu'il y a toujours de l'espoir. Et je trouve que voilà, ces mots le disent tellement mieux, parce que c'est du vécu, c'est expérimenté.
Et donc, Johanna, tu parles de parcours d'accompagnement. Et donc, ce parcours d'accompagnement est disponible en ligne sur le site Les Affranchis. Et c'est donc un parcours dans lequel tu vas pouvoir accompagner les femmes. Aurélie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, mais je suis touchée par ce qu'elle dit. C'est juste que je pensais, peut-être qu'elle pourrait dire un petit mot aux femmes qui ont des enfants et qui ont peur, en fait, par rapport au fait qu'elles vivent des violences, de se dire, mais à cause des enfants, je ne veux pas bouger. Moi, c'est juste à ça que je pensais, parce que je pense que c'est important. Mais dans une autre espoir, bien sûr.
Johanna,
oui. Désolée.
Si tu peux répondre en une minute.
Oui, je peux répondre en une minute.
Aurélie, spécialiste des grosses questions, dernière minute. Mais allons-y.
Effectivement, les violences, en fait, elles impactent les enfants. Que les enfants subissent les coups directement ou qu'ils ne soient juste à les voir. Quand il y a des enfants dans le foyer, violences conjugales, ce sont des violences intrafamiliales. Les enfants sont nécessairement impactés. Le psychotraumatisme qui va atteindre la femme victime, il atteint de la même manière les enfants. Donc, je ne dis pas ça pour culpabiliser les femmes qui sont victimes. Je dis juste que si peut-être elles hésitent à partir, en tout cas à dire stop, je ne veux plus, je ne cautionne plus, parce que je veux rester pour mes enfants, eh ben, au contraire, vous pouvez partir pour vos enfants, en fait. Vous pouvez vous opposer pour vos enfants, parce que ça vous fait du mal à vous, mais aussi à vos enfants, en fait. Et vous en avez le droit pour eux.
Ben merci beaucoup, Johanna. Bon, finalement, tu as bien fait de poser la question, Aurélie, parce que c'était important de pouvoir le souligner. On part à cause des enfants et justement pour les protéger. Et donc, Johanna, je disais, tu as ton parcours d'accompagnement, donc Les Affranchis qui est en ligne. Et puis, on a aussi des numéros utiles. Tu pourras compléter, mais il y a le 3919 pour la France. Il y a aussi un portail arrêtonslesviolences.gouv.fr. Il y a aussi le CIDFF. Donc bon, tout ça, ce sont des ressources en France et aussi bah, les commissariats, bien sûr, où vous pouvez aller porter plainte. Et important de le dire, vous n'êtes pas obligé d'aller porter plainte dans le commissariat de votre ville. Vous pouvez aller ailleurs. Si vous avez peur des répercussions, si vous connaissez des gens aussi dans ce commissariat, vous pouvez aller porter plainte ailleurs. Est-ce que toi, tu veux rajouter d'autres ressources, Johanna ?
Oui, effectivement, ça c'est pour la France, mais vous tapez pour la ville qui vous concerne, violence conjugale dans votre ville, il y a toujours des ressources, des associations spécialisées, et voilà, vous trouverez des mains tendues, j'en suis persuadée, vous trouverez des mains tendues sur votre chemin de sortie et de reconstruction.
Merci beaucoup, Johanna. Merci de nous avoir partagé ce qu'étaient réellement les violences, d'avoir mis des mots sur ces choses, mais aussi de nous avoir donné de l'espoir parce que c'est possible, oui, de s'en sortir. Maintenant, c'est important que vous sachiez, si vous nous suivez, que de s'en sortir tout seul, ça va être plus difficile. Alors, on vous encourage non seulement à vous confier en Dieu, mais aussi à aller trouver de l'aide, comme on l'a dit, dans des associations que vous allez trouver autour de chez vous, parce que vous allez trouver des professionnels, vous allez trouver des personnes avec de l'expérience qui vont pouvoir vous donner aussi des clés qu'elles soient très pratiques, très naturelles parce que comme on l'a dit, il y a différentes formes de violences, des violences notamment administratives. Donc comment faire si vous n'avez plus de papier, si vous n'avez plus de ressources économiques pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir quitter un foyer dans lequel vous ou vos enfants êtes en danger. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Alors merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous, merci beaucoup Johanna, et puis on vous dit à vous toutes, eh bien à mercredi, bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.